Bonsoir à tous, nous allons débuter cette première conférence de l'année 2019, donc déjà bonne année à tous. Et donc ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Jérémy Lecomte. Donc Jérémy est chercheur à l'Observatoire de Bordeaux, laboratoire d'astrophysique de Bordeaux, c'est ça le terme officiel. Donc Jérémy est un théoricien, donc il travaille sur les planètes extrasolaires, leurs intérieurs, les atmosphères, les climats sur les planètes extrasolaires, et il interagit beaucoup avec les observateurs, ce dont il va nous parler notamment ce soir. Donc son parcours, il a préparé sa thèse à l'École normale supérieure à Lyon, donc là il travaillait plus sur les intérieurs des exoplanètes géantes.
Sous la direction de Gilles Chabrier.
De Gilles Chabrier qui viendra donc dans deux mois. Par la suite, il a travaillé au laboratoire de météorologie dynamique à Jussieu, où il a travaillé plus justement sur les atmosphères de ces planètes et sur les climats donc des exoplanètes. Par la suite, il a poursuivi ses études, ses recherches à Toronto, donc au Canada. Et donc, il a été recruté par le CNRS comme chercheur il y a quelques années, donc à l'Observatoire de Bordeaux. Et donc, ce soir, il va nous présenter une conférence intitulée « Comment explorer de nouveaux mondes sans quitter la Terre ferme ?» Je t'en prie.
Merci. Bonsoir à tous. Alors, ce soir, je voulais essayer de prendre un contre-pied un peu par rapport à la façon dont généralement on parle de science, où généralement on vous explique en fait après coup tout ce qui a été compris, et puis dans une belle construction logique, on vous explique les bases, et puis voilà, et puis on construit l'édifice, et à la fin, vous vous dites « Ok, j'ai appris plein de choses sur ce sujet ». Mais finalement, j'en sais pas beaucoup plus sur comment la recherche s'est faite, comment les chercheurs ont vraiment abouti finalement à ces conclusions. Parce que d'ailleurs, même s'ils vous disent souvent comment ils ont abouti à ces conclusions, souvent ils ont un peu refait l'histoire après avoir compris et s'être planté pas mal de fois. Et donc ce que je voulais faire ce soir, c'est vous raconter un peu de manière vraiment chronologique une découverte qui m'a pas mal occupé ces dernières années, et qui, en fait, pour vous vraiment donner l'idée de comment ça se passe chronologiquement, une découverte un peu en astrophysique, et comment, au jour le jour, eh ben, on interagit entre collègues pour arriver à ceci. Alors, le corollaire aussi, c'est que j'aime bien que ce soit interactif, et donc je préfère, plutôt que d'avoir toutes les questions à la fin, s'il y a quelque chose qui est soit vraiment pas clair ou soit quelque chose, un moment que vous voulez vraiment demander, je préfère que vous demandiez, voilà, qu'on prenne le temps de discuter un peu, comme ça, ça permettra aussi un peu de ne pas avoir un monologue. Alors, comment explorer de nouveaux mondes sans quitter la Terre ferme ? Alors oui, effectivement, on pourrait parler, je parle d'astrophysique, alors on parle d'exploration. Qu'est-ce que j'entends par exploration, finalement ? Puisque on n'est pas encore dans les capacités forcément d'aller voir ces planètes de si près que ça. Alors, quand on entend parler d'explorateurs, forcément, l'image qui nous vient en tête, c'est sans doute quelque chose comme ça. Et effectivement, c'est quand même un grand explorateur. Moi, il se trouve qu'étant jeune, ce n'était pas vraiment ça mon modèle. Mon modèle, c'était plutôt ça, parce que je suis plutôt en astrophysique. Mais bon, vous voyez bien qu'avec ou sans chapeau, Harrison arrive toujours à faire le boulot. Et malgré tout, finalement, c'est pas encore ça, nous, notre exploration, parce que, comme je vous dis, on n'a pas de vaisseau, on ne peut pas enclencher la vitesse lumière et aller à l'autre bout de l'univers pour aller voir nos planètes. Alors, finalement, c'est quoi, nous, notre recherche ? C'est vrai que c'est plutôt quelque chose comme ça. Alors, quelque chose comme ça, oui, parce que, mine de rien, il faut savoir qu'aujourd'hui, même quand on est observateur, on passe quand même une grande partie de notre temps derrière un ordinateur, moi en particulier, parce que même, finalement, pour avoir les observations, finalement, comme on cherche des signaux de plus en plus fins, de plus en plus difficiles à faire sortir des différentes images que l'on prend au télescope, on est toujours, en fait, une grande partie du travail va finalement aller dans le traitement informatique, dans l'écriture d'un logiciel qui va être assez intelligent pour aller chercher la toute petite partie d'information dans cet océan de bruit. Alors, heureusement, ça commence quand même pas comme ça. Ça commence aussi en astrophysique souvent par un télescope. Alors, celui-là, c'est le télescope TRAPPIST. Comme vous pouvez vous en douter, c'est un télescope belge. Mais c'est un télescope belge qui est donc sur le plateau du Chili. Et alors Trappiste, en fait, pourquoi Trappiste ? Eh ben, en bon français, ça veut dire Transiting Planets and Planetesimal Small Telescope. Et donc, ça veut simplement dire que c'est un télescope qui cherche des planètes. Alors, il se trouve qu'il n'est pas très impressionnant comme ça. Effectivement, ce n'est pas un télescope très impressionnant. C'est un télescope qui fait que 60 cm de diamètre. Et en plus, c'est un télescope qui est complètement informatisé. Il y a juste besoin de gens qui viennent de temps en temps faire 2-3 réparations, quelqu'un qui vient ouvrir le hall, la lunette au début de la soirée. Alors généralement, ils n'oublient pas d'éteindre la lumière, hein. C'était pour la photo, parce que sinon c'est un peu problématique pour voir les étoiles. Et sinon, il est contrôlé complètement depuis une salle informatique en Belgique par des collègues, donc, notamment Michel Ginon, avec qui donc, on a beaucoup travaillé là-dessus. Donc ce télescope, qu'est-ce qu'il fait ? Alors, il observe des étoiles, mais qu'est-ce qu'il fait ? Comment il cherche des planètes ? Alors, on pourrait croire que pour trouver une planète, ce qui suffit, c'est ben, finalement de prendre une photo d'une étoile et puis de regarder bien, de bien mettre ses yeux en amande, et on va voir un petit point à côté qui va être une planète. Mais ça, c'est en fait extrêmement compliqué. Une planète, c'est tellement faible en termes de luminosité par rapport à la luminosité de l'étoile, qu'en fait, si on faisait une analogie avec la taille, il faudrait être capable de distinguer en fait un microbe sur une photo de l'Empire State Building. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement compliqué. Alors, il y a des gens qui arrivent à le faire maintenant grâce à des techniques, et puis c'est certains types de planètes et tout. Mais les planètes dont je vais vous parler, à l'heure actuelle, on est incapable de les découvrir par cette méthode. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Ben, finalement, on fait ce qu'on appelle de la photométrie en transit. Alors c'est quoi un transit ? Ben, c'est simplement, c'est un terme pour juste dire qu'une planète passe devant l'étoile. Alors là, par exemple, c'est ce que vous verriez si Vénus passait devant le Soleil. Certains d'entre vous ont peut-être vu un transit de Vénus. Alors là, Vénus serait un peu plus petite, en fait. Mais le problème, c'est que ça, c'est bien parce que, en fait, le Soleil, on est capable, avec nos yeux, de ce qu'on appelle le résoudre. C'est-à-dire que vous pouvez voir, vous voyez un disque, vous ne voyez pas un point. Il y a le haut, le bas du Soleil, à gauche, à droite. On est même capable de voir des taches solaires. Et donc, on est capable de voir un petit point passer devant. Il se trouve que pour les autres étoiles que vous voyez par exemple à gauche de cette diapositive, elles sont en fait, la majorité, l'extrême majorité, si ce n'est la totalité des étoiles que vous voyez dans le ciel, vous n'êtes pas capable de les résoudre. Vous voyez seulement un point. D'ailleurs, si vous avez l'impression que certaines étoiles sont plus grandes que d'autres, c'est absolument faux, votre œil n'est pas capable de le lire. C'est seulement que certaines étoiles sont plus brillantes que d'autres et donc leur tache sur votre œil est un petit peu plus grande. Vous la voyez un peu plus grande, mais vous n'êtes pas capable de voir si une étoile est plus grande qu'une autre. Donc, on a juste un petit point, et donc qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on a comme information finalement ? On a juste la lumière, on connaît la quantité de lumière qui nous vient de ce petit point. Et ça, c'est ce que je vous ai montré en bas, la petite courbe, là, il y a la lumière en fonction du temps. Et donc, si je remets cette animation passée, eh bien simplement, l'étoile a sa luminosité, et puis quand la planète passe devant, bah c'est comme quand vous mettez un petit pouce devant une lumière, vous allez en fait faire une onde, vous allez diminuer la luminosité de l'étoile, donc c'est pour ça que la luminosité descend, et ensuite, quand la planète va ressortir, eh ben, la luminosité va remonter. Et donc, c'est comme ça qu'on a découvert à l'heure actuelle la plus grande partie des exoplanètes, et maintenant, c'est plus quelques dizaines, c'est même plus quelques centaines, c'est quelques milliers d'exoplanètes qui ont été découvertes par cette méthode. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est que déjà, rien que ça, vous allez me dire, c'est bien faible, parce que finalement, est-ce qu'on sait juste qu'une planète est là ? On n'en sait pas beaucoup plus. Et en fait, si, on en sait quand même un peu plus, parce que finalement, on peut assez facilement se convaincre que si la planète que j'avais là était 2 fois plus grande, eh bien, simplement, elle cacherait 2 fois plus de l'étoile, et donc la luminosité baisserait 2 fois plus. Et donc, alors, quand je dis 2 fois plus, c'est 2 fois plus grande, c'est en termes de surface, parce que bien sûr, si elle est 2 fois plus grande en rayon, elle va être 4 fois plus, sa surface va être 4 fois plus importante. Mais donc, ce qui est important, c'est que quand on mesure la taille, en fait, de cette petite baisse de luminosité, ce qu'on appelle vulgairement un transit, eh bien, on a une information sur la taille de la planète, à condition, bien sûr, qu'on ait un a priori sur la taille de l'étoile. Donc voilà. Donc ça, c'est la méthode. Alors, il y a d'autres méthodes, hein, mais je ne vais pas aller justement vous expliquer toutes les méthodes, parce que sinon, ça pourrait nous prendre beaucoup de temps. Et par contre, le problème, c'est que cette image que vous avez montrée, elle était assez, elle était dans un cas assez favorable, parce qu'en fait, quand on regarde à l'échelle, ça, c'est à l'échelle, la Terre, qui passe devant le Soleil, et donc le Soleil, vous voyez bien que j'ai dû en mettre qu'un bord, parce qu'en fait, il est vraiment énorme, il est donc 100 fois plus grand que la Terre en rayon, mais donc encore une fois, en surface, il est donc 10 000 fois plus grand que la Terre, donc ça veut dire que la Terre cache un 10 000e de la surface du Soleil quand elle passe devant, et ça veut dire qu'il vous est devé, pour détecter la Terre qui passe devant un Soleil, être capable de voir une variation de la luminosité d'une étoile à un 10 000e près, pendant quelques heures. Voilà. Et c'est là que, finalement, on revient à l'idée que je vous disais, que c'est pour ça qu'on a besoin en fait, de logiciels puissants, et pas simplement de regarder à l'œil nu pour voir si on a détecté une planète. Et c'est là-dedans, c'est dans ça que vient vraiment l'ingéniosité des observateurs pour réussir à isoler ces petits transits. Alors là, dans ce cas-là, alors c'est pour ça d'ailleurs aussi que en fait, les premières planètes qui ont été détectées comme ça, ce n'étaient pas des petites Terres, c'était plutôt des Jupiters, parce que Jupiter, pour vous dire, est 10 fois plus grand que la Terre, donc 100 fois plus de surface, et donc là, il fallait détecter une variation de 1%, ce qui est déjà beaucoup plus facile. Et donc, le problème, c'est que faire des transits de la Terre devant un Soleil comme notre Soleil, c'est très compliqué. Donc l'idée de ce télescope belge, du télescope TRAPPIST, finalement, c'était quoi ? Eh bien, c'était d'aller chercher des planètes, parce qu'on voulait des planètes type Terre, quand je dis type Terre ou type Vénus, c'est-à-dire des planètes un peu rocheuses, peut-être type Mars, mais forcément, on savait que ce n'était pas possible devant un Soleil, ben, il fallait juste trouver quoi ? Il fallait trouver une étoile, mais et il fallait qu'elle soit comment ? Ouais, mais j'ai entendu, il fallait qu'elle soit
petite,
exactement, il fallait qu'elle soit petite. Et donc, qu'est-ce qu'on a regardé ? Ben, on a regardé les plus petites étoiles dans la galaxie. Finalement, c'est ce qu'on appelle des naines brunes. Donc là, vous voyez, c'est une image d'artiste de ce à quoi ça ressemble une naine brune. Et vous voyez qu'en fait, une naine brune, c'est à peu près exactement la même taille. Des fois, il y en a même qui sont plus petites que Jupiter. Mais il faut savoir que malgré tout, elles sont jusqu'à 100 fois plus massives que Jupiter. Donc c'est des choses qui sont 100 fois plus denses que Jupiter, qui sont quand même faits de gaz, c'est pas de la grosse roche, c'est la mécanique quantique qui nous permet d'avoir des objets un peu exotiques comme ça. Mais donc, alors c'est des naines brunes, et en fait, dès qu'elles sont un petit peu plus massives qu'une naine brune, dès qu'elles dépassent en fait en vrai 80 fois à peu près la masse de Jupiter, elles démarrent la fusion de l'hydrogène dans leur cœur, et elles deviennent ce qu'on appelle des étoiles M, en fait les plus petites étoiles donc qui font... comme je vous ai dit, donc la taille de Jupiter, donc 1/10 de la taille de notre Soleil, et quand elles prennent et petit à petit, quand elles vont vers la masse du Soleil, ben elles ont la taille du Soleil. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est que si on reprend nos petits calculs de coins d'enveloppe, et ben finalement, la Terre, comme je vous ai dit, elle est 10 fois plus petite que Jupiter, donc elle est simplement, en fait, 1% en surface plus petite que ces étoiles-là. Et donc, le signal qu'on doit chercher, c'est plus 1/10, c'est 1%. Donc la même chose que pour découvrir un Jupiter. Et c'est pour ça qu'on s'est intéressé à ces étoiles-là, parce que c'est ça qui nous permettait éventuellement de découvrir ce genre de planète. Alors vous allez me dire, mais pourquoi les gens ne l'ont pas fait avant ? C'est simplement parce que ce type d'étoiles-là, alors en fait, elles ne sont pas rares du tout. Il y en a même partout, c'est même la majorité des étoiles. Seulement, elles sont tellement petites et tellement peu lumineuses qu'on est capable de les voir que si elles sont ce qu'on appelle dans le voisinage solaire. Et donc, en fait, on en voit beaucoup moins. Si vous regardez dans le ciel, vous ne voyez quasiment que des grosses étoiles, en vrai, des étoiles de Soleil, voire des étoiles géantes, parce que c'est les plus brillantes, même si elles sont très loin. Et ces petites étoiles-là, vous ne les voyez pas du tout. D'ailleurs, TRAPPIST, on est incapable de la voir à l'œil nu. Alors voilà. Donc ce télescope, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a simplement regardé, donc de manière automatisée, il a fait un catalogue de toutes ces petites étoiles qui étaient observables. Il y en avait, je crois, dans son catalogue quelques centaines, et il a commencé petit à petit à les observer, nuit après nuit, de regarder ces étoiles. Et un jour, eh bien, il a détecté ça. Et voilà. Vous allez me dire, bon, vraiment ? C'est ça, votre planète ? Vous y croyez ? Alors, bon, quand même, effectivement, alors, donc, les petits points bleus pour vous dire, donc, c'est mesures de luminosité, hein, temps, heure après, enfin, minute après minute. Les gros points noirs, c'est simplement quand on moyenne plusieurs, parce que sinon, il y a du bruit, ça, c'est du jargon technique, mais globalement, regardez les points noirs. On a une espèce de luminosité constante, et puis à un moment, on voit, si on a les yeux de la foi, on voit une petite baisse de luminosité, un transit. Alors vous allez me dire, effectivement, si c'est que ça, vraiment, c'est un peu léger. Moi, j'y crois pas forcément. Alors, heureusement, c'est pas que ça, en fait, c'est ça plusieurs fois. Et parce que ce qui est intéressant, c'est que forcément, cette planète, si elle passe une fois devant son étoile, eh ben, au bout d'un moment, elle repasse. Elle a une année, en fait. Elle a son année à elle, qui n'est pas forcément la même durée que notre année. Et d'ailleurs, vous verrez que ces planètes-là, par exemple, il y en a une dont l'année fait 1,5 jours. C'est-à-dire que tous les 1,5 jours, elle a fait un tour de son étoile, là où nous, il nous en faut 365 pour le faire. Mais donc, on a eu de la chance, on avait détecté toute une panoplie de transits, et donc on pouvait, en fait, commencer notre enquête. Et c'est un peu ça que je veux vous raconter, c'est comment on est passé de ce genre d'indice, nos premiers indices, à essayer de vraiment résoudre cette enquête, c'est-à-dire explorer ces planètes. Puisque vraiment, vous allez voir, on ne va pas juste dire est-ce qu'elles sont là ou est-ce qu'elles ne sont pas là. Notre but, c'est vraiment d'utiliser, en fait, quoi ? Ben, d'utiliser les lois de la physique pour pouvoir partir de ces quelques indices et, en fait, d'arriver à comprendre de quoi sont faites ces planètes, comment éventuellement... quel type d'atmosphère elle pourrait avoir, peut-être quel type de climat. Et vous allez voir qu'en fait, il y a plein d'informations. Alors pour ça, on va revenir deux secondes à l'école et je vais vous faire un petit cours accéléré d'introduction au transit pour vraiment que vous compreniez qu'en fait, c'est des principes très simples. Il n'y a absolument rien de très sorcier, si ce n'est dans la mise en œuvre, effectivement, que c'est plus dur, mais les principes de base sont extrêmement simples. Alors, je vous reprends. Là, maintenant, vous commencez à avoir l'habitude. La luminosité de l'étoile en fonction du temps, là, il y a les petits points. Et là, vous voyez très bien que tous les quelques jours, il y a un transit. Et donc, effectivement, quand on a ça, c'est assez évident. On peut mesurer, je vous avais dit, la taille de la planète. On peut mesurer, quand on regarde entre deux transits, on peut mesurer sa période. Et donc, on a déjà des informations intéressantes parce que, comme je vous disais, ça nous donne sa taille. Donc déjà, savoir si c'est la taille d'une Terre ou la taille d'un Jupiter, déjà, on a déjà pas mal d'informations, parce qu'on se doute qu'on ne peut pas avoir un rocher qui ferait la taille de Jupiter. On n'a jamais vu de planète qui soit aussi massive que Jupiter, mais qui soit faite complètement de roche. Donc, en fait, là, on a déjà de l'information. Et ensuite, la période orbitale, ça nous donne aussi beaucoup d'informations, parce qu'en fait... Ça nous donne quoi comme information ? Ça nous donne l'information de la température qu'il peut faire à la surface de cette planète. Alors vous allez me dire, comment on fait ça ? Bah simplement, si on a la période orbitale, donc on sait à quelle distance, à peu près, si on a une idée de l'étoile, on sait à quelle distance elle doit être de son étoile, parce qu'il y a une loi qu'on appelle la loi de Kepler, si je ne me trompe pas, qui nous dit, en fait, qui lie la distance à la période orbitale d'une planète. Et donc, si on connaît la distance et qu'on connaît, encore une fois, qu'on a un peu un a priori sur l'étoile parce qu'on l'a observé par ailleurs, eh ben, on connaît la luminosité de l'étoile. Et donc, on sait à cette distance, on sait quelle énergie reçoit la planète. Et donc, on sait, par des simples lois de physique fondamentales, quelle est la température qu'il doit faire à la surface de cette planète. Et là, quand je vous dis ça, je ne vous dis pas juste est-ce qu'il va faire 10 degrés ou moins 12, qu'est-ce qu'on met dans nos valises quand on va aller se promener là-bas. Non, non. Je vous parle de planètes où il peut faire moins 230 degrés Celsius, et où là, franchement, moi, j'y mettrai pas les pieds tout de suite, jusqu'à des planètes où il fait plus de 2000 degrés, parce qu'elles sont tellement proches que finalement, à midi sur ces planètes, eh ben, le sol commence à fondre. Et donc, vous avez un océan de lave sur tout le côté jour de la planète. Donc, voilà, c'est des choses complètement extrêmes, et finalement... Rien qu'avec déjà ces deux informations, vous avez vu ce qu'on est capable de dire. Et c'est pour ça qu'en allant creuser un peu, vous allez voir qu'on va pouvoir aller plus loin. Alors le problème, c'est que ça, c'est bien joli, ça, c'est ce que tous les observateurs rêveraient d'avoir, mais en fait, souvent, on n'a pas ça. Alors, pourquoi on n'a pas ça? Parce que qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce que vous savez, globalement, ce qui peut se passer au niveau d'un télescope? Il y a des nuages, j'ai entendu. Il y a des pannes, des grèves.
Des fois, c'est
le jour. Des fois, simplement, des fois, c'est le jour, déjà. Et la plupart du temps, même, c'est le jour. Et quoi d'autre? Bah, simplement, et puis il y a toujours des petits emmerdeurs, c'est-à-dire d'autres astrophysiciens qui veulent observer autre chose. Et donc, vous avez votre temps, voilà, et vous ne pouvez pas observer tout le temps, et vous avez peut-être quelque chose qui ressemble plus à ça. Et encore là, j'ai été assez gentil. Et donc, vous avez seulement des informations parcellaires. Et donc là, vous voyez bien tout de suite qu'on ne va pas tout de suite pouvoir dire « Ah ben voilà, j'ai ma planète, elle fait tel taille, machin, qu'est-ce qu'on va devoir faire ?» Eh bien, on va devoir faire des essais-erreurs. On a nos indices, c'est les indices que je vous avais montrés avant. Et maintenant, il va falloir faire notre enquête. Alors, notre enquête, on va simplement prendre, on va prendre des suspects, et puis on va aller vérifier leur alibi. Alors, par exemple, là, on veut avoir la période. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Simplement, on prend un premier suspect, on se dit, il y a un transit là, il y a un transit là. Bon, est-ce que ça ne serait pas la période de notre planète? Et puis, on continue. Alors, si c'est ça, il doit y avoir un transit là. Ah, on a de la chance, il y en a un. Et puis, hop, il doit y avoir un transit là. Alors, il se trouve que là, en fait, s'il y avait un transit, on ne serait pas capable de l'observer parce qu'on n'avait pas de données. Donc là, on ne peut pas, à ce moment-là, rejeter complètement cette hypothèse. Mais on voit que là, on a observé un transit qui n'était pas prédit. Alors voilà, paf, ce suspect-là, il n'est pas bon. Alors, on en prend un autre. Hop. Et on en prend un autre. Là, on se dit, là, ces deux-là, elles sont plus rapprochées. Donc disons que c'est la période. Et puis là, même chose. Donc là, il y a un transit qu'on n'est pas capable de voir. Là, on prédit bien ce transit. Mais encore une fois, ce transit-là, par exemple, on ne le prédit pas. Mauvaise hypothèse. Eh bien, on recommence. Là, qu'est-ce qu'il y a? On a un transit là, on a effectivement un transit là, on a un transit là, on a un transit là, et puis, en fait, y a des endroits où on ne peut pas voir, mais il n'y a aucun endroit où ça ne colle pas. Bon, celui-là, peut-être qu'on le garde. Et puis, on peut continuer. Ce n'est pas parce qu'on en a un qu'on peut garder. Vous savez, dans une enquête, ce n'est pas parce qu'on a un suspect qui n'a pas d'alibi, c'est forcément le coupable, donc il faut continuer. Et donc on continue, et on peut faire ça, et là par exemple, vous allez voir qu'il y a un endroit, par exemple ici, où vous prédisez un transit qui n'a pas lieu. Donc forcément, on se doute que si on double encore la fréquence, ça n'a pas marché. Alors voilà, vous voyez le principe, il est extrêmement simple, on va tester plein d'hypothèses, et il y en a plein qui ne vont pas coller, et c'est là où en fait la technique vient en jeu, que simplement, ça on ne va pas le faire à la main, c'est un ordinateur qui va, de manière un peu intelligente, venir tester plusieurs milliers d'hypothèses, plusieurs même millions d'hypothèses, en variant des petits paramètres à droite et à gauche, et qui, à la fin, va vous donner, si tout va bien, une solution. Et donc là, par exemple, effectivement, on voit que ça, c'était le seul coupable qui tenait, et effectivement, quand on remet, ça marche bien. Donc voilà. Donc ça, c'est juste pour que vous compreniez bien ce qu'on avait à faire. Et donc, si on revient ici, on avait donc ces courbes-là. Et c'est comme ça que, en jouant ce petit jeu-là, on a réussi en fait à identifier, alors pas une, pas deux, mais on avait identifié trois planètes. Donc, parce qu'effectivement, là, vous voyez, il y a des petites lettres. Alors là, on a T1C, T1D, T1B, et ainsi de suite. Et là, c'est T1B encore, T1B, T1C, T1B, ainsi de suite. Et voilà. Et on a identifié pour chaque transit à quelle planète il appartenait. Alors, déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'à ce moment-là, donc c'est à peu près à ce moment-là, moi, que j'ai été contacté par Michel Gillon, pour des histoires que je vais vous raconter après. Mais en fait, il faut savoir qu'à ce moment-là, c'est déjà une grosse découverte. C'est déjà une grosse découverte parce que, en fait, grâce à ça, alors, on sait quoi? On a déjà une première idée de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a les deux premières planètes, on a déjà une bonne idée de leur période. Comme je vous disais, la première, elle a une période de 1,5 jours. Et la deuxième a une période de 2,4 jours ou quelque chose comme ça. Mais c'est assez intéressant parce que déjà, c'est les premières planètes de type terrestre dont le signal est aussi fort parce qu'elles sont devant une aussi petite étoile. Donc le fait, déjà, c'était important. Ensuite, même si vous allez me dire, elles sont extrêmement proches. C'est vrai que si on avait une planète qui était à une orbite de 1,5 jours dans le système solaire, elle serait extrêmement chaude. Pour vous comparer, Mercure est à 90 jours de période, donc c'est encore beaucoup plus proche que Mercure. Mercure, c'est déjà du 300 ou 400 degrés à midi. Donc voilà. Donc en fait, ça c'était déjà intéressant. Et on savait en plus que, comme elles étaient devant cette petite étoile, eh ben, on pourrait, et je vais en parler un peu plus tard, les caractériser, aller plus loin, peut-être avoir des idées sur leur atmosphère. Mais ensuite, ce qui était encore plus intéressant, c'est que celle-là, cette planète D, eh ben, en fait, avait, comme je vous ai dit, alors si on revient un tout petit peu en arrière, en fait, cette planète D, on l'avait vue que deux fois. On l'avait vue une fois ici, et on l'avait vue une fois ici. Et donc, si vous vous rappelez de ce que je vous ai raconté, comme on n'avait que deux transits, finalement, on n'avait aucun moyen de connaître la période. Enfin, on savait qu'elle ne pouvait pas être plus grande que cette distance entre les deux, mais elle aurait pu passer entre les deux et qu'on l'aurait loupée, puisque, comme je vous dis, on n'a que des informations très fragmentaires. Donc, en fait, quand on avait fait tout ce jeu d'essais-erreurs, eh ben, il y avait encore 11 coupables qui pouvaient tenir, 11 périodes possibles. Mais ce qui était intéressant, c'est que quand on était avec ces 11 périodes-là, ben, il y en avait certaines qui étaient compatibles avec une température proche de notre Terre. Et ça, quand vous dites ça à quelqu'un qui fait de la planétologie, tout de suite, lui, il voit de l'eau liquide, des océans, des petits dauphins et tout. Enfin, voilà. Et donc forcément, ça a mis beaucoup d'enthousiasme. Et donc, il fallait aller essayer d'aller un peu plus loin. Alors juste pour m'arrêter, pour ceux qui ne savent pas, alors pourquoi on appelle ça TRAPPIST 1, TRAPPIST 1B? Donc TRAPPIST, bah, je vous l'ai dit, en fait, c'est le nom du télescope. Donc c'est simplement le fait que quand on observe des étoiles avec un télescope, eh ben, on a le droit, comme on a un catalogue, on a le droit de leur donner, on leur donne un nouveau nom qui ne remplace pas les noms précédents, mais on a le droit de leur donner ce nom-là, d'employer ce nom-là. Un, c'était parce que c'était la première étoile de ce catalogue, en tout cas la première où ils ont découvert des planètes. Et ensuite, les planètes, eh ben, elles portent le nom de l'étoile avec à coller un petit B quand c'est la première, un petit C pour la suivante, et D, on peut aller comme ça. Alors ça, qu'est-ce que ça nous dit? Bon, ça nous dit simplement que les astrophysiciens n'ont absolument aucune imagination whatsoever, mais bon. Oui? Alors, je vais répéter parce qu'en fait, pour qu'on entende, on m'a dit qu'il fallait répéter la question. Donc, la question, c'est de dire que comme pour les détecter, il faut des périodes assez courtes, est-ce que ça ne nous biaise pas, finalement, hein, dans ce qu'on découvre? Alors, oui, forcément. D'ailleurs, on le sait. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on le sait très bien, en fait. On le sait très bien parce que, effectivement, une planète comme la Terre, bah, un an, c'est-à-dire qu'il faudrait attendre un an pour la revoir passer, c'est très long, c'est compliqué. Il se trouve qu'on détecte des planètes qui ont des périodes de cet ordre-là maintenant, avec Kepler qui a regardé un champ d'étoiles pendant plusieurs années, on a réussi à détecter quelques planètes. Il se trouve qu'on va même, il y a une mission qui est lancée qui s'appelle Plateau, dont le but est de découvrir des planètes comme la Terre à plus longue période. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on sait qu'on est très biaisé, mais en fait, on a mathématiquement, on peut très bien, on peut mettre des fonctions, on peut mettre des chiffres sur ce biais. Et donc, on est tout à fait capable, en fait, de reconstruire, moyennant certaines hypothèses, hein, bien sûr, mais de, quand même de savoir ce qu'on a manqué. Et donc, par exemple, pour vous donner en fait, un chiffre de base, simplement le fait que plus vous êtes loin, si un tout petit angle, bah, par exemple, vous ne passez plus devant l'étoile, si vous êtes orienté de manière... voilà. Et donc, la Terre, par exemple, a une chance sur 200, si vous êtes quelque part dans la Voie lactée, vous avez une chance sur 200 de voir la Terre transiter. Mais si jamais on sait qu'on a observé 200 de ces étoiles et qu'on a vu peut-être une planète comme ça, eh ben, on sait qu'il y a de grandes chances qu'il y en ait peut-être 200. Alors peut-être moins, peut-être plus, ça c'est la statistique, c'est là où il y a des outils techniques qui rentrent en jeu, mais globalement, voilà, c'est juste pour vous dire que, on sait qu'on est biaisé, on sait qu'on est biaisé et on peut corriger ce biais. Alors, oui ? Ah oui, bien sûr. Alors là, il faut savoir que la première planète qui a été détectée, qui s'appelle 51 Peg B, parce qu'elle était autour de l'étoile 51 Peg, qui a été détectée par Michel Mayor et Didier Queloz, avec d'ailleurs un instrument qui était sur le sol français, à l'OHP, en 95. Alors je vais peut-être me faire engueuler si je dis que c'est la première planète détectée, ça dépend par qui, mais bon, la première planète qui a été universellement reconnue. Et elle, c'était en fait un demi-Jupiter, entre Saturne et Jupiter, sur une orbite de pas dire de bêtises, 4 jours. Voilà, 4 jours, et donc c'est une planète sur laquelle il fait, en gros, voilà, des températures de l'ordre de 2000 degrés, quoi.
De grande taille, mais pas forcément massive.
Alors, si, puisque il se trouve que, bon, pas, j'en ai pas parlé, mais on a des moyens, pour ces planètes-là, notamment, de mesurer la masse. C'est d'ailleurs le métier principal de monsieur ici. Donc il y a des moyens pour mesurer leur masse, et on savait, là, celle-là, on connaît sa masse, alors par contre, on connaît pas sa taille parce qu'elle transite pas. Mais, hein ? Mais en fait, simplement, elle transite pas, elle passe pas devant son étoile, on détecte en fait le mouvement de l'étoile qui est induit par la planète, c'est ce qu'on appelle les vélocités radiales, et donc on connaît en fait sa masse. Voilà. Alors, pour revenir sur cette histoire, donc, encore une fois, en fait, il y avait donc ces 11 périodes possibles, ces 11 coupables dont il fallait vérifier maintenant l'alibi. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que, forcément, vous avez peut-être vu des dates ici, donc ça allait de septembre à décembre 2015. Donc là, ça vous donne une idée de la chronologie. Et en fait, cette étoile-là n'est visible. Vous savez que les étoiles changent en fonction des saisons, simplement parce que le ciel de nuit change au fur et à mesure que la Terre fait son tour autour du Soleil. Et en fait, cette étoile n'était visible dans l'hémisphère sud, en tout cas de cet endroit-là, qu'à cette saison-là. Et donc, on savait, après décembre 2015, qu'il nous faudrait attendre encore un an pour la réobserver avec le télescope TRAPPIST. Alors, forcément, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? Bah, ce que tout bon astrophysicien fait, bah, il publie ses résultats déjà avant de faire quoi que ce soit d'autre. Non, c'est pas tout à fait vrai. Mais surtout, il va aller demander du temps sur d'autres télescopes. Alors vous allez me dire, mais quel autre télescope peut voir une étoile qui n'est pas visible dans le ciel de nuit ? Bah, simplement, il faut aller demander dans un télescope spatial. Et donc, on a demandé sur le télescope spatial Spitzer, qui est un télescope infrarouge, qui est opéré par la NASA. Et donc, l'idée, c'était que on avait ces 11 périodes possibles. Ben, si vous avez les 11 périodes, vous savez quand elle est passée, vous savez quand elle va repasser. Et donc, simplement, on a demandé du temps pour regarder juste autour des fenêtres où cette planète devait transiter. Et on a dit, voilà, est-ce qu'on va trouver un transit ? Quand on va trouver un transit, on saura la période et ça sera fini. Alors, première tentative. Alors là, maintenant que vous êtes des experts, transit ou pas transit ? Allez, à main levée, qui dit oui ? Qui dit non ? Qui ne veut pas se mouiller ? Ah, il y en a quand même qui se mouillent, ça fait plaisir. Non, il n'y a pas de transit. Deuxième tentative, alors là, il y a effectivement un transit. Alors là, quand je vous montre ça, forcément, c'était évident qu'il n'y en avait pas là. Mais il se trouve que celle-là, c'était déjà une des planètes qu'on connaissait, donc bon. Et puis, comme ça, on en recommence. Et puis, encore deux transits, des deux planètes qu'on connaissait. Et puis, on essaye toutes nos fenêtres. Et puis, eh ben, pas de chance. Pas de planète D. Alors, là, généralement, quand on a ça, en jargon technique, on se dit qu'il y a une couille dans le potage. Pourquoi ? Bah parce que simplement, on a fait vraiment le mieux qu'on pouvait, on a fait tous nos essais, on a dit c'est forcément 11 périodes possibles, on essaye toutes les périodes possibles, et bien il n'y a pas de planète. Alors là, on a en fait des sentiments assez intéressants, parce que d'un côté, on est en train de se dire, mais alors qu'est-ce qu'on a loupé ? Parce que forcément, on a loupé quelque chose. Mais en même temps, à côté de cette frustration, il y a vraiment l'idée qu'on est sur une grosse, entre guillemets, découverte et qu'il y a vraiment quelque chose à comprendre. Parce que si on a loupé, ce n'est pas juste qu'on a mal fait notre boulot, enfin on espère. C'est quand même qu'il y avait quelque chose d'important dont on est passé à côté. Et c'est là qu'on se dit qu'on est sur le point de faire une découverte intéressante. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a en fait demandé du temps pour regarder encore avec Spitzer, mais plus simplement pendant quelques fenêtres, on a demandé en fait à regarder le système pendant 21 jours, et comme ça, pour avoir cette espèce de courbe de lumière complètement parfaite dont je vous parlais, où on a une couverture continue tout le temps, et on est sûr de rien louper. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et donc là, ce que je vais vous montrer, c'est une petite animation où vous allez voir en fait la courbe de lumière défiler au fur et à mesure, et vous allez voir une animation en haut des planètes qui passent devant. Et donc, on a, quand on voit ça, et ben, finalement, on voit les données qui arrivent, et vous voyez, en fait, ben, la planète C, la planète B, dont on se doutait, et puis là, finalement, hop, deux autres planètes, et puis encore C, puis encore B, et puis ah, une troisième planète nouvelle, et puis E, encore une planète nouvelle, et puis B, C qui reviennent, et ainsi de suite. Et en fait, là, on a vu que ce n'était pas en fait, trois planètes, même pas quatre, même pas cinq, et en fait, c'était sept planètes qui avaient autour de cette toute petite étoile. Et donc là, effectivement, on savait que c'était une découverte encore, finalement, encore plus majeure que ce qu'on pensait, parce que ce n'est pas seulement une de ces planètes qui aurait peut-être une température comparable à celle de la Terre, mais c'est plusieurs, en fait, qui... Là, on a toutes des planètes, et elles sont toutes plus ou moins, en fait, entre Vénus, ou Mercure, plutôt, et Mars, quoi. Oui ? Là ? Ah, là ! Vous voulez dire ça ? Oui. C'est des flares, c'est des éruptions en fait de l'étoile. Donc c'est simplement un moment. En fait, c'est une étoile. Ces étoiles-là, alors là, c'est des courbes qui ont été beaucoup traitées. En fait, ces courbes, elles font des variations. Simplement, c'est des étoiles qui sont très actives et qui ont beaucoup de tâches. C'est des petites, comme ces petites étoiles-là. Elles ont un champ magnétique assez intense, donc il y a beaucoup de tâches, il y a beaucoup d'éruptions solaires, et qu'on voit, et il y a même dans ces données, il y a justement des super éruptions qui ont été étudiées simplement pour juste pour le fait d'étudier ces éruptions. Quoi.
Comment on écarte justement les tâches solaires qui pourraient perturber et faire croire à...
Alors, comment on écarte les tâches solaires qui perturbent et qui pourraient faire croire à un transit en vrai, on ne le fait pas bien. C'est même un gros sujet de recherche. De manière générale, l'activité de l'étoile, ce qui pour certains est un signal, ceux qui observent les étoiles, pour nous est une source de bruit, et même la source de bruit la plus emmerdante, en fait. Et donc, c'est compliqué. Il y a des méthodes, c'est-à-dire que heureusement, on n'observe pas toujours ces étoiles à une seule longueur d'onde, et il y a des longueurs d'onde où on sait qu'on a des marqueurs de cette activité, donc si on corrèle ça à ce qu'on voit, on peut se dire bah, tiens, celle-là c'est vraiment une tâche alors que celle-là c'est sans doute plutôt une planète, mais c'est vrai que c'est, il faut le savoir, la plus grosse source d'erreur à l'heure actuelle. Voilà, donc cette planète, et pour vous donner une idée quand même de la taille un peu de ces objets, alors là vous avez le système solaire, donc la Terre, Vénus, Mercure, le Soleil serait au milieu, et si vous zoomez sur cette toute petite partie, vous avez ça, et là il y a en fait nos sept planètes. Vous voyez que c'est un système extrêmement compact, qui est très compact, qui est autour d'une petite étoile. Et pour vous donner encore une idée, là, en fait, c'est à la même échelle que ça, donc les satellites de Jupiter. Donc vous voyez qu'on est quand même sur des échelles assez similaires. Et aussi, si on mettait la Terre là, la Lune serait ici. Donc en fait, vous avez des planètes qui sont extrêmement proches, plus proches que la Terre et la Lune. Et ça, c'est intéressant, parce que si vous voulez faire de la science-fiction, il faut quand même se dire que quand on est dans la nuit sur ces planètes, on peut voir des croissants de planètes passer ou des planètes pleines qui, à l'échelle de quelques jours, puisque, comme je vous ai dit, il y en a une, c'est 1,5 jours, celle-là, ça doit être 2 jours, là, il doit y avoir 3 et quelques, 6, 8, 10 jours. Et donc, on peut avoir des planétaisons, si vous voulez, et donc d'objets qui vont, en fait, dans le ciel, être plus gros que la Lune, telle que nous, on la voit depuis la Terre. Voilà. Ça, c'était pour la page science-fiction. Voilà, ça c'est un peu pour mettre pour vous montrer la comparaison entre donc le système de Jupiter et cette étoile-là. Alors, maintenant, je vous ai dit qu'on allait essayer d'aller un peu plus loin. C'est bien, on sait qu'elles sont là, on a déjà des idées de leur taille, donc on sait qu'elles sont toutes plus ou moins, ça je ne vous l'ai pas dit, mais elles sont toutes plus ou moins de la taille de la Terre ou en allant vers la taille peut-être de Mars. Mais on aimerait bien savoir de quoi elles sont faites. Voilà, on aimerait aller un peu plus loin. Et donc, pour faire ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, comme on le sait, finalement, quand on veut, et on le sait bien nous à Bordeaux, quand on veut savoir ce qu'il y a dans une trappiste, eh bien, il suffit de décapsuler. Comme ça, on peut voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc, C'est ce qu'on a fait, alors par une méthode qui est assez originale, parce que ces planètes, elles ont finalement une propriété qui est assez dingue. C'est-à-dire que si elles sont ce qu'on appelle en résonance, c'est-à-dire que si vous prenez la période de la... Alors donc la, pas la septième, mais la sixième planète qu'on a vue passer, dont on connaissait la période à ce moment-là. Donc si on lui donne, en fait, un temps, entre guillemets, une durée de 1, eh bien, la période de la planète juste avant elle est exactement 4 tiers de cette durée, et la période de la planète suivante est exactement, en fait, c'est un demi de cette durée, celle-là, c'est un tiers de cette durée, un cinquième de cette durée, un huitième de cette durée. Donc, en fait, si vous avez ici, par exemple, la noire, vous la mettez là, là, vous avez une blanche, et puis là, vous avez une tierce, et puis là, vous avez une double croche. Donc, en fait, on a vraiment ces planètes qui font un vrai rythme, un vrai tempo. Et c'est d'ailleurs ça qui a fait un de nos collègues de la NASA qui a fait cette vidéo. Bon, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris donc, les vraies données, et juste à chaque fois qu'il y a une de ces planètes qui passe devant l'étoile, eh ben, il a mis un coup de carillon avec la note qui correspond au nom de l'étoile de la planète, puisque c'est bien parce qu'on a en notation anglaise, en fait, les notes ont les noms simplement A, B, C, D, E, F, G, H. Et donc, simplement, voilà ce qu'il a fait, et voilà ce que ça donne, et c'est là que je vais essayer... On va essayer d'entendre. Hop. Je ne sais pas si vous entendez. Et il n'y a aucun trucage. Hein. Moi, je trouve personnellement que ça redonne tout son sens à l'expression la musique des sphères. Voilà. Et donc, bah, c'est joli. Alors, il faut savoir même qu'il y a eu, en fait, après ça, il y a eu un concours sur Internet, sur ces sites de musique créative, pour essayer, en fait, dont le thème était trappiste. Et les gens ont fait toutes sortes de musiques avec, en utilisant pour certains, ont utilisé ces rapports-là pour les rapports des notes, des fréquences, et ainsi de suite. Et il y a même, vous pouvez trouver une application où en fait le système tourne et puis vous faites vous-même votre musique en décidant quel instrument vous mettez sur quelle planète et tout. Donc il y a beaucoup de choses à faire avec ça. Et c'est là... Hein ? On a redécouvert la musique. Et donc, mais au-delà de ça, il y a quand même un intérêt scientifique derrière cette histoire. Alors il y a une question ? Ok. Alors la question c'est comment on est sûr qu'il y en a bien 7, pas plus, pas moins. Alors, détecter deux fois, alors, il y a une information que je n'ai pas forcément développée, mais on le voit très bien ici. En fait, quand ces planètes passent, vous voyez que tous les transits, déjà, n'ont pas la même taille. Simplement, c'est simple, elles passent devant la même étoile, mais elles n'ont pas toutes la même taille, ces planètes. Donc en fait, déjà, c'est un très bon moyen de savoir différencier les transits. Donc en fait, quand il y a une planète qu'on passe deux fois, on a quand même de bonnes idées de savoir si c'est la même ou si c'est une autre. Par contre, il est tout à fait possible qu'il y ait des planètes qu'on n'ait pas détectées. Alors, ces planètes pas détectées, il y a peu de chances qu'elles soient de périodes beaucoup plus petites que celles qu'on a détectées, parce que comme je vous dis, là, on avait une couverture continue. Donc s'il y avait des planètes qui étaient passées, on les aurait vues. Par contre, il est tout à fait possible qu'il y ait des planètes qu'on n'ait pas vues parce qu'elles ont une période beaucoup plus longue et qu'elles passent peut-être qu'une fois tous les un an, et celles-là, on ne les a pas vues. Ça, c'est tout à fait vrai. Il est aussi possible qu'il y ait des planètes qui sont, en fait, passent pas devant l'étoile, sont en fait inclinées par rapport au disque. Alors là aussi, on a assez de mal, vous allez comprendre juste après, pour à penser que ces planètes-là, elles puissent être des périodes similaires à celles qu'on a vues là, parce que simplement, si elles étaient là, eh ben, elles viendraient foutre le bordel dans les autres, et donc on verrait vraiment leur effet. Et donc, ça, c'est assez peu probable. Mais qu'il y ait des planètes plus lointaines qui existent, je vais même vous dire, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a d'autres rochers dans ce système. Alors oui, après, il y a bien sûr la possibilité qu'il y ait des planètes ou des astéroïdes qui soient tellement petits qu'ils soient dans ce bruit-là. Là aussi, ça, c'est encore une fois entièrement possible. Et je peux même vous dire, c'est sûr qu'il y a forcément d'autres choses de là-dedans. Dans le système solaire, il n'y a pas 8 planètes et puis basta. Donc... Si cette planète n'est pas sur le plan de l'écliptique, quand ça se passe au niveau de la période, on ne la connaît pas, on ne pourrait pas la voir. Ça par contre, c'est tout à fait possible que toutes ces... Alors, je dis ça, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Mais avec juste les informations que vous avez là, c'est tout à fait possible qu'il y ait une planète qui passe comme ça, une planète qui passe comme ça, une planète qui passe comme ça, juste elles ne peuvent pas être comme ça. Mais elles doivent tous passer devant l'étoile. Mais c'est vrai que là, c'est entre guillemets une vue d'artiste. Mais en même temps, on a de bonnes raisons, comme je vais vous le dire après, parce que les planètes, ça interagit entre elles, ce n'est pas des objets isolés, donc elles ne peuvent pas non plus faire n'importe quoi. Par exemple, si vous faites un système comme ça, et que vous mettez une planète comme ça, une planète comme ça, une planète comme ça, une planète comme ça, en fait, elles vont s'éjecter. Ce n'est pas stable. Voilà. Donc, hop, on revient. Voilà. Donc, justement, parlons de ces interactions, parce que, comme je vous disais, l'intérêt de ces résonances, c'est quoi ? Eh bien, c'est que ces résonances, ça veut dire que quand une planète repasse à un endroit, l'autre, par exemple, qui est à la résonance 2, en fait, va passer exactement deux fois. Et donc, ça veut dire que quand cette planète-là revient, l'autre est toujours au même endroit. Et donc, en fait, c'est intéressant parce que ces planètes, comme je vous dis, elles sont pas, elles interagissent entre elles simplement par la gravité. Donc, le plus gros puits de gravité dans ce système, c'est l'étoile, elle est au milieu, elle fait que toutes les planètes tournent globalement en rond autour d'elle, ou plus ou moins en rond. Mais en fait, ces planètes aussi ont une gravité et attirent les autres planètes du système. Juste, c'est ce qu'on appelle des perturbateurs, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas la gravité dominante, mais par exemple, quand une planète voit une planète devant elle, elle lui fait « Oula, cocotte, attends un petit peu », et puis de même chose, la planète devant l'attire, elle lui fait « Tiens, viens par là ». Et donc ces planètes, ça fait des petits effets sur leur orbite, qu'on est très bien capable de voir, par exemple, dans le système solaire. Mais il faut savoir que ces effets-là, si vous aviez des planètes avec des périodes un peu n'importe comment, et ben, de temps en temps, la planète la verrait devant, et puis de temps en temps, elle repasse au même endroit, en fait, elle est derrière. Donc tous ces effets-là, globalement, sont très faibles et se moyennent. Mais dans le cas on a un cas qui est dit résonant, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des configurations qui reviennent très régulièrement. Et donc, ces interactions, au lieu de se moyenner, de s'éliminer les unes les autres, eh ben, au fur et à mesure des orbites, elles s'ajoutent. Et donc, en fait, ces transits, eh ben, ils ne sont pas exactement périodiques. De temps en temps, une planète qui a vu une autre planète un peu devant elle régulièrement, eh ben, elle a été un peu plus vite, et donc, eh ben, son transit est un peu en avance. Et puis, quelques semaines après, eh ben, la planète s'est plutôt retrouvée derrière elle, et donc, son transit va être en retard. Et c'est exactement, par exemple, ce qu'on voit là. Alors, c'est un peu technique. C'est tous les transits, par exemple, d'une planète, là, la D, là, la E, là, la F et là, la G. Mais je vais juste vous attirer sur ces deux panneaux-là. Donc, c'est tous les transits successifs, à peu près dans le temps, donc depuis le début vers la fin dans le temps. Donc, on a le premier transit qu'on a vu, et bien ainsi de suite. Et ils sont à peu près, quand ce transit-là était à peu près en même temps que celui-là, celui-là en même temps que celui-là, et ainsi de suite. Et vous voyez très bien que, par exemple, ces deux planètes-là sont très couplées, en fait. Il y en a une qui, petit à petit, donc si elle était parfaitement périodique, son transit serait toujours au milieu, là. Et en fait, au début, elle commence là, et puis petit à petit, elle se retarde. Elle se retarde, et on est capable de le voir parce que c'est des retards de plusieurs minutes, en fait. Donc, simplement, vous regardez quand elle transite, vous le chronométrez, et vous savez qu'elle est en retard. Et puis après, elle revient, elle se remet en avance, et vous avez vu que celle-là, elle fait exactement l'opposé. Quand celle-là est en retard, bah, celle-là est en avance, et ainsi de suite. Et donc ça, c'est simplement ce que je vous disais, c'est deux planètes qui interagissent. Il y en a une qui dit « Eh ma cocotte, ralentis », Et donc forcément, action-réaction, si elle, elle lui dit ralenti, bah, l'autre en fait, la tire en avant. Et donc c'est comme ça, parce que ces interactions en fait, dépendent de quoi ? Bah, de la gravité, donc de la masse de chacune de ces planètes. C'est comme ça qu'avec cette méthode-là, en compilant tous ces temps de transit sur toutes les planètes qu'on avait, sur tous les transits qu'on a été observés, on a été capable de mesurer la masse de chacune de ces planètes individuellement. Et donc là, vous voyez, on a quelque chose de beaucoup plus intéressant, parce qu'on avait la période, on avait le rayon, maintenant on a le rayon et la masse. Et si je prends le rayon, ça veut dire le volume. Si je prends la masse que je divise par le volume, j'ai la densité. Et donc, je peux savoir si c'est du caillou, je peux savoir si c'est de la glace, je peux savoir si c'est du gaz. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Alors là encore, c'est un diagramme qui est un peu barbare, mais vous allez voir, c'est encore une fois aussi très très simple. Simplement, tous les points, c'est les planètes qu'on connaît, donc les planètes de notre système. Et puis là, on a Vénus et la Terre. Et simplement, on l'a mis en fonction de la masse de la planète qu'on a mesurée et du rayon de la planète qu'on a mesurée. Et on les compare à quoi ? Ben, on les compare par exemple à cette courbe-là. Cette courbe-là, la grosse courbe blanche continue, épaisse, eh ben, c'est le rayon en fonction de la masse que devrait avoir une planète qui a la densité de la Terre. Et vous voyez, ça marche plutôt pas mal parce que la Terre est plus ou moins exactement sur ce trait. Et Vénus aussi, et en fait Mars aussi. Donc si on a des planètes qui sont rocheuses comme la Terre, eh ben, on s'attend à ce qu'elles soient sur cette courbe. Par contre, si on a une planète, parce qu'effectivement, Vénus, bon, on la voit souvent comme ça, mais en fait, en vrai, quand on regarde en radar, bah, c'est une planète rocheuse vraiment comme la Terre. Alors vous allez me dire, la différence, c'est que la Terre a des océans et Vénus n'en a pas, mais en fait, il faut bien savoir que les océans de surface, c'est seulement 1/10 millième, je crois, de la masse de la Terre. Alors oui, ça couvre une grande partie, parce que l'eau est plus légère que la roche, donc ça remonte en surface. Mais en fait, en termes de masse, c'est la profondeur moyenne des océans, c'est 2,7 km, à comparer aux 6000 km de la Terre. Donc, ça, on est incapable de voir s'il y a des océans de surface comme ça, juste par cette méthode. Par contre, ce qu'on serait capable de voir, c'est que si on a un objet qui est beaucoup plus haut que cette courbe-là, par exemple, là, vous avez la courbe qu'on aurait pour un objet qui est fait 100% d'eau, alors je dis H2O, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément de l'eau liquide, ça peut être de l'eau sous forme de glace, ça pourrait être un analogue, par exemple, d'Encelade, qui est un satellite de Saturne, et dont on sait qu'il a une énorme proportion d'eau, en fait, c'est quasiment c'est plusieurs dizaines de pourcents d'eau mélangée à de la roche. Et donc, ces satellites glacés, il y en a beaucoup qui sont similaires à ça, eh ben, si on a des planètes qui sont dans cette partie du diagramme, eh ben, on a sans doute peut-être des analogues de ces satellites glacés. Et là, vous voyez que c'est assez intéressant parce qu'on a quelques planètes qui tombent effectivement sur la courbe, donc la E, la G, la C, la D, sur la courbe des planètes terrestres, mais on a quelques objets aussi, par exemple ici, qui tombent un peu au-dessus. Et ça, c'est vraiment, vraiment, là aussi, c'était une découverte en fait majeure parce que encore une fois, je vous ai dit tout à l'heure, quand quelqu'un, un astronome, entend planète avec la température de la Terre, il imagine toujours tout de suite des océans. Mais on n'avait jusque-là aucune idée de savoir si sur des planètes aussi petites, il pouvait y avoir de l'eau. On dit toujours, s'il y a de l'eau, elle est peut-être liquide. Mais là, sur ces planètes-là, eh ben, on a les premiers indices qu'il y a vraiment de l'eau, et de l'eau en quantité, c'est-à-dire plusieurs dizaines, voire centaines de fois la masse des océans terrestres. Voilà. Alors, donc voilà. Et donc ça demande bien sûr à être confirmé. Hein. Ce n'est pas du tout quelque chose qui est gravé dans le marbre. Les dernières données, d'ailleurs, tendent peut-être à rapprocher un peu ces points-là de la courbe. Mais voilà, c'est pour vous dire à quel point on peut aller, en fait, quel niveau de détail on peut aller avec des données finalement si fragmentaires. Alors, c'était pas fini, parce que, je ne sais pas si vous avez vu sur les diapositives précédentes, mais il y avait toujours la septième planète qui était un peu là, et qui était passée qu'une seule fois là, pendant nos 21 jours. Et donc, la question, c'était finalement, c'est bien joli tout ça, mais une seule fois, c'est même encore moins que les deux fois qu'on avait avant pour la troisième planète. Donc comment on peut essayer de trouver sa période ? Et là, donc, on s'est laissé inspirer par ces deux gentlemen. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Il y en a un que peut-être vous avez déjà vu. Ah, voilà. Donc à gauche, c'est Urbain Le Verrier, donc, qui a été effectivement astronome royal ici à l'Observatoire. Et on a ici Adams, qui était un individu que je ne vous en veux pas de ne pas connaître, puisqu'il était très peu connu, mais qui ont fait en fait la même prédiction, et à peu près au même moment. Et c'est simplement que ces deux hommes ont en fait calculé, juste en regardant les mouvements d'Uranus, et ils ont prédit qu'il devait y avoir une autre planète qui était Neptune. Et en fait, simplement à cause des interactions gravitationnelles, comme je vous ai prédit, ce dont je vous ai parlé avant, en fait, Uranus perturbe l'orbite. Les deux de toute façon, mais Neptune perturbe l'orbite d'Uranus. Et donc, ils avaient pu prédire exactement même où était la planète. Et simplement, ce personnage étant plus connu, il a plus facilement pu convaincre par courrier un astronome allemand. D'aller vérifier ça, et en fait le soir même où il a reçu la lettre, il a observé, il a découvert Neptune, et puis il a répondu, voilà, on a découvert Neptune, voilà, c'est plié. Et malheureusement, Adam, ça n'a pas réussi à persuader quelqu'un de faire les mêmes observations. Mais c'était quand même de génie. Et donc, on s'est dit, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas un peu s'inspirer de ça? Et donc l'idée, c'était que on savait que ces planètes étaient en résonance, elles étaient toutes en résonance, c'est ce que je vous ai montré. On s'est dit, mais cette dernière, est-ce qu'elle n'est pas en résonance aussi? Donc on a essayé de faire des petits calculs, voir si c'était possible. Et en fait, il se trouve que quand on regardait toutes les résonances possibles, qu'on regardait les données, on disait, si c'est ces résonances-là ou ces résonances-là, comme je vous ai expliqué, c'est pas possible parce qu'on l'aurait vu là, on l'aurait vu là, on l'aurait vu là. Et en fait, quand on a fait ce petit jeu, il restait une seule résonance qui marchait, et dont on ne pouvait pas vérifier la véracité. Alors il se trouve qu'à ce moment-là, il y avait un autre satellite spatial qui s'appelait Kepler, hop, qui lui observait en fait ce champ. Et le truc, c'est qu'il était en fin de mission, et il était dans un mode de mission où il allait observer pendant 90 jours cette étoile et plein d'autres, mais notamment cette étoile, qu'au bout de ces 90 jours, les données seraient téléchargées sur Terre, seraient mises sur un serveur et publiques pour tout le monde d'aller chercher dedans. Alors forcément, nous, quand on a vu ça, ça nous a mis en ébullition. Et donc, on avait en fait préparé tout pour que, dès que les observations arrivent, puisqu'on avait nos prédictions, on savait où est-ce qu'on voulait regarder, on voulait vérifier cette prédiction, il fallait aller, entre guillemets, le plus vite possible. Alors ça a été une semaine complètement de dingue, je me rappelle que durant les quelques jours avant l'arrivée des données, je pense que j'ai plus de 1000 mails de cette vingtaine de collaborateurs pour essayer de se mettre en place. En fait, finalement, on a fait un truc qu'on fait rarement, mais on a écrit le papier en fait avant d'avoir les données. C'est-à-dire qu'on avait préparé tous nos modèles, et on n'avait plus qu'à mettre les données dedans, et on avait déjà écrit plus ou moins des choses, on avait décrit tout, et en fait, il suffisait juste de dire, finalement, est-ce qu'on avait la bonne période ou pas. Et donc, les données devaient arriver, je crois, un mardi soir, on était tous dans les starting blocks, finalement, mauvais temps, les données arrivent le mercredi, le lendemain, et là, c'est parti pour 2-3 jours de folie, pour certains, ne pas dormir, et effectivement, on avait prédit donc dans cette fenêtre qu'il devait y avoir 4 transits, et en fait là on n'en voit que 3, il y en a d'autres qui suivent, mais c'est les 3, et en fait ils tombent exactement à l'endroit qu'on avait prédit. Alors vous allez me dire là comme ça, ça c'est les endroits qu'on avait prédit, et effectivement il y a des transits exactement à l'endroit, alors là on ne pouvait pas le voir, il y en a un là et un là. Alors vous allez me dire là comme ça, vous n'y croyez pas beaucoup, alors je vais vous montrer. En fait, si on grandit autour des transits, là, c'est la période qu'on avait prédit, et là, vous avez les 4 transits, et quand on les additionne, ça donne ça. Et donc, on a effectivement découvert cette 7e planète exactement à l'endroit où on l'avait prédit. Voilà. J'ai un petit peu plus, mais bon, c'est peut-être, je peux aussi m'arrêter là. Donc, 5 bonnes minutes ? Allez. Je vais vous faire en vitesse, en gros, pour essayer de comprendre maintenant, là, c'est là où on en est maintenant. Voilà. Et l'idée, c'est de savoir où est-ce qu'on veut aller dans l'avenir. Alors, l'avenir, comme je vous ai dit, c'est d'aller un peu plus loin que simplement ça, c'est d'aller encore plus les caractériser, et donc notamment d'essayer de voir leurs atmosphères, de les détecter, et de savoir notamment s'il y a de l'eau dans ces atmosphères, qui confirmerait un petit peu ces intuitions qu'on a. Alors, comment on peut faire pour voir leur atmosphère ? Donc, je vais vous montrer cette photo, vous avez peut-être déjà vu, c'est encore une fois, c'est Vénus. Et là, ce qui m'intéresse, ce n'est pas simplement le fait qu'elle transite, mais c'est le fait que, là, comme vous voyez ici, par exemple, vous voyez de la lumière. Et en fait, cette lumière, c'est de la lumière qui a été réfractée par l'atmosphère de Vénus et qui nous arrive à nous. Alors, ce n'est pas tant qu'on va essayer de voir cette lumière-là, mais ce que ça met en évidence, finalement, c'est simplement que, là aussi, il y a l'atmosphère de Vénus de tout ce côté-là. Et pendant tout le transit, en fait, autour du petit disque noir de la planète, il y a l'atmosphère, et il y a de la lumière qui passe à travers cette atmosphère. Et si on arrive, par des méthodes ingénieuses, à en fait, isoler le signal qui est passé par cette atmosphère, et bien simplement, on peut avoir des idées de qu'est-ce qu'il y a dans cette atmosphère. Alors pourquoi ? Et bien simplement parce que, là, c'est une photo, par exemple, de Titan. Vous avez, par exemple, là, le disque de Titan qu'on voit, par exemple, plutôt dans le visible, donc qui aurait à peu près cette taille de disque. Et ça, c'est ce qu'on verrait si on va dans l'ultraviolet, simplement parce que Titan a une atmosphère étendue, mais qui n'est pas visible, enfin, au-dessus de plusieurs centaines de kilomètres, on ne la voit plus dans le visible, mais dans l'UV, on est capable encore de la détecter. Mais donc, si Titan passait devant une étoile, et ben simplement, comme maintenant vous êtes des experts, vous voyez tout de suite là où je veux en venir, si on regardait dans le visible, on aurait un transit qui aurait une certaine profondeur, puisqu'on verrait en fait ce disque-là, la taille de ce disque-là passer devant l'étoile. Mais si on regardait dans l'UV, eh bien simplement, on verrait un disque un petit peu plus grand, puisque le Titan cacherait un petit peu plus dans l'UV, parce que son atmosphère est plus étendue, entre guillemets, dans l'UV. Et donc, ces couleurs-là, en termes techniques, c'est simplement des longueurs d'onde. Et si on fait ça à toutes les longueurs d'onde, eh bien on est capable, avec un télescope, d'arriver en fait à regarder pour chaque longueur d'onde la taille effective de la planète. Et ça nous donne ce qu'on appelle un spectre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça, c'est vraiment l'empreinte digitale des molécules qu'il y a dans cette atmosphère. C'est-à-dire qu'on est capable, sur Terre, de faire exactement la même chose. On fait un spectre de l'eau, on fait un spectre du méthane, on fait un spectre du monoxyde de carbone. C'est ce qui est fait. Et après, on regarde dans ces données-là, et on identifie s'il y a des petits pics à l'endroit où il doit y avoir des pics pour l'eau, c'est qu'il y a de l'eau, et ainsi de suite. Et c'est par exemple ce qui est fait tous les jours sur Terre, notamment par exemple par les satellites qui veulent mesurer le CO2 ou la quantité d'eau dans l'atmosphère. Les satellites sont au-dessus de l'atmosphère, ils regardent l'atmosphère et ils font ce qu'on appelle un spectre simplement, différentes couleurs, et ils regardent ça. Et donc on va faire à peu près la même chose, sauf que c'est sur des objets qui sont à plusieurs années-lumière. Et effectivement, quand on a ce genre de spectre, eh ben, nous, on est capable, si on voyait un spectre de la Terre, de dire qu'il y a du CO2. Là, on sait que cette couleur-là, donc ça, c'est dans l'infrarouge, eh ben, il y aurait de l'ozone, et ainsi de suite. Voilà. Et donc ça, c'est ce qui va se passer dans les quelques années à venir, notamment avec un nouveau télescope qui arrive, qui est le descendant Hubble, qui s'appelle le James Webb Space Telescope, qui devait être lancé il y a 20 ans, mais ne sera lancé sans doute que dans 5, et qui, s'il est vraiment lancé, et s'il marche, va, à mon avis, révolutionner ce champ de recherche. Voilà, juste pour finir sur un petit peu cette découverte qui nous a quand même beaucoup enthousiasmés, parce qu'on s'est rendu compte que le jour où on a publié, il y avait en fait le Google Doodle quand même qui nous a été réservé. Ça, c'était vraiment... Là, pour nous, c'est intéressant parce que généralement, on publie un papier et puis personne n'en parle, à part 2-3 astrophysiciens dans une conférence. C'était un peu cool. Et une dernière slide pour vous montrer qu'en fait, c'est ça que j'aime beaucoup sur la recherche, c'est que ce n'est pas simplement une ou deux personnes, c'est beaucoup de personnes. C'est beaucoup de personnes qui viennent de beaucoup d'horizons différents et qui, malgré des fois, on parle souvent de compétition, des fois, arrivent aussi à travailler ensemble pour faire ce genre de découvertes. Voilà, je vous remercie et vous donne la parole.
Merci beaucoup, Jérémy. Y a-t-il d'autres questions, des commentaires ?
Dans le système enfin au-delà du système solaire, le groupe, où se trouve TRAPPIST-1?
Alors, TRAPPIST, alors il se trouve quasiment sur l'écliptique. Je ne sais plus dans quelle constellation il est. Peut-être que Guillaume saurait mieux que moi, non?
Non, je ne sais pas bien.
Ok. Non, il est presque dans ton écliptique. D'ailleurs, on s'est amusé à calculer que sur TRAPPIST, à l'heure actuelle, on n'est pas capable de voir le transit de la Terre. Parce qu'on est juste un tout petit peu, il est juste un tout petit peu hors du plan de l'écliptique. Mais dans 6000 ans, à cause du mouvement de l'étoile, dans 6000 ans, les astronomes sur TRAPPIST seront capables de voir un transit de la Terre. Voilà. C'est une prédiction qu'on fait. Je ne sais pas ce qu'ils en font, mais... Et c'est donc à 12 parsecs, donc à peu près 40 années-lumière. Donc c'est vraiment dans notre voisinage. Hein. C'est parmi les étoiles les plus proches.
Oui.
Bonsoir, monsieur. Nous, le genre humain, on est sur place pour essayer de donner, et on l'a fait, la carte d'identité de la Terre. Si on est sur notre planète... Donc, on a avec une montre, avec un petit pic de géologue, on arrive à donner une carte d'identité très précise de cette planète, certainement bien supérieure à tout ce qu'on peut faire ailleurs. Donc, ma question est peut-être basique et très mal posée. À l'instar de vos recherches, de vos analyses, de vos observations sur le fond de transit des planètes, est-ce que, premièrement, il existe... identifié et visible un transit de la Terre sur, par exemple, le Soleil, la Lune. Et partant de là, en appliquant vos méthodes, est-ce qu'on peut, sur l'analyse de ce transit, déterminer, je dirais donc indirectement, par rapport à nos propres mesures, déterminer indirectement toutes les caractéristiques de notre planète et en cela, vérifier ces méthodes, puisqu'on a une référence qui est...
une réalité de terrain.
Très exacte, très précise.
Oui, bah,
en appliquant vos méthodes d'analyse sur le propre transit.
Alors, ça a été fait. Alors, pour ce qui est de la taille et du rayon, ça marche assez bien. Hein. Alors maintenant, pour l'atmosphère, en fait, il y a des gens qui ont regardé pendant une éclipse de Lune et qui ont réussi en fait, à regarder la lumière réfléchie par la Lune... qui passaient par l'atmosphère de la Terre et qui ont réussi à faire un spectre de ça. Et en fait, on retrouve plein de choses. On retrouve un peu des traces d'eau, on retrouve l'ozone en particulier, on retrouve le CO2. On est capable de retrouver beaucoup de choses. Donc ça nous donne en fait confiance que... Alors bien sûr, comme vous le dites, on ne sera jamais à ce niveau de détail, mais ça nous donne confiance dans le fait qu'on va quand même pouvoir vraiment dire des choses qui sont... je ne sais pas si on peut aller jusqu'à robuste, mais qui ont un sens.
À l'instant, il y avait une question en haut. Oui.
Sur ce système, quelles sont vos prochaines recherches? Qu'est-ce que vous allez chercher à savoir maintenant sur ces sept planètes, après tout ce que vous savez déjà?
Bah justement, donc c'est ce que j'ai dit sur la fin. Donc, par exemple, il y a beaucoup d'intérêt... avec donc le télescope spatial James Webb qui va être lancé, en fait, d'aller faire la spectroscopie de l'atmosphère. C'est-à-dire de vraiment pointer le télescope, essayer... Alors, il y a plein de choses qu'on peut faire. Il y a ce que je vous ai dit en transit. On est capable aussi, on pense, pour certaines des planètes, comme elles sont assez chaudes, un peu plus chaudes que Mercure, en fait, quand elles vont passer de l'autre côté, c'est-à-dire quand elles vont être cachées par l'étoile, on va pouvoir arriver à analyser, en fait, juste la partie de la lumière qui venait de la planète, donc en fait, faire une vraie mesure de la température du côté jour et peut-être de la composition du côté jour, tout simplement comme on est capable de faire, par exemple, vers Mars, où on pointe un télescope infrarouge vers Mars, on détecte le rayonnement, on sait ce qu'il y a, on sait qu'il y a du CO2 sur Mars et quelle température il fait. Donc, c'est ce genre de choses qu'on va faire. Et en fait, après, l'idée, c'est que selon le type de composant qu'on va trouver, eh ben, ça va essayer ou nous conforter ou très probablement venir mettre à plat beaucoup des théories qu'on a sur quelle est la composition des atmosphères en général. Quoi.
Oui.
Merci. Ces planètes sont si proches de leur étoile, je suppose qu'elles sont toutes synchronisées?
Oui. Ah. Disons que c'est une possibilité. C'est très probable.
Ce qui change beaucoup de choses pour les possibilités d'habitabilité, évidemment.
Alors, je ne sais pas dans quel sens vous entendez ça, parce que différentes personnes vous ont dit des choses très différentes. Alors, ça change, ça c'est sûr, ça change. C'est d'ailleurs, en fait, principalement, c'est un de mes sujets d'études, un de mes dada, puisque moi, ce que je fais souvent, c'est, enfin, une partie de mon temps, c'est de fait d'avoir des modèles de climat et de météorologie, en fait, appliqués à ces planètes. Et effectivement, on voit que quand on met ce qu'on appelle une planète synchrone, c'est-à-dire synchrone, ça veut simplement dire qu'elle fait un tour sur elle-même en même temps qu'elle fait un tour autour de l'étoile. Donc simplement comme la Lune, elle nous montre toujours la même face. Et bien cette planète montre toujours la même face à son étoile. Et donc ça fait quoi? Ben, ça fait qu'il y a un côté jour permanent et un côté nuit permanent. Et ça, effectivement, ça change beaucoup de choses parce que l'atmosphère donc crée des grandes cellules qui vont venir réchauffer le côté nuit. Mais en fait, on pourrait croire que de ce côté nuit, eh bien, il va faire extrêmement froid et que ça serait complètement inhabitable. Mais en fait, on a montré qu'avec une atmosphère comme celle de la Terre, eh bien, il y ferait pas beaucoup plus froid que dans les endroits le plus froid de l'Antarctique, de ce côté nuit. Simplement parce que l'atmosphère est assez efficace pour prendre beaucoup d'énergie du côté jour et aller réchauffer le côté nuit. Donc oui, ça va changer beaucoup de choses. Dans quel sens? Là, c'est là que les gens débattent. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est intéressant d'aller voir. On va y aller, oui.
Reste-t-il une ou deux questions ou commentaires? Ou a-t-on fait le tour? Allez, une dernière question là-haut.
Merci. Y a-t-il des naines brunes qui seraient de meilleures candidates à l'observation, c'est-à-dire qui seraient plus proches que Trappiste?
Je ne veux pas dire de bêtises. Il y a pour sûr des naines brunes qu'on a observées. Alors, à l'heure actuelle, il n'y a pas de détection, d'autres détections, on va dire. Il n'y a toujours pas de détection de planètes autour de naines brunes, si on peut le dire comme ça. Je ne serais pas étonné que ça arrive. Néanmoins, parce que j'ai un collègue dont c'est le dada d'essayer de faire ça, et il se trouve qu'il a réussi à me convaincre par des arguments statistiques que ce n'est pas parce qu'on n'en a pas vu qu'il n'y en a pas, parce que vu la complétude des données, etc., lui pense que c'est tout à fait possible. D'ailleurs, par exemple, on a observé plusieurs étoiles même un peu plus grandes, et des trappistes, on n'en a pas découvert non plus des tas. Donc, est-ce qu'on va un jour faire une découverte technique qui va nous permettre d'un coup d'en découvrir des dizaines? Je ne sais pas, mais c'est sûr qu'il y a des gens qui essayent.
Bien, je vous propose d'arrêter là pour ce soir et merci encore Jérémy.